Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur.
Et on poursuit bien évidemment notre voyage au cœur de votre patrimoine et on accueille ce matin Antoine Andréani, bonjour.
Bonjour Cédric.
Pour XTB France et on va aller profiter de cette fin d'année, on va commencer à tirer quelques bilans et à ouvrir peut-être quelques perspectives. Déjà, voir un petit peu comment vous regardez, comment vous analysez les performances 2024.
Eh bien, on a le S&P 500 qui surperforme largement le CAC 40, 25%, alors que le CAC 40 est en négatif, moins 3% à ce jour. C'est un marché qui est toujours le même depuis 2009. On est dans un marché haussier très fort, très résilient, qui n'a peur de rien, qui se sert de prétexte pour acheter la bourse dès qu'il en a l'opportunité. Et donc très résilient parce qu'il a traversé toutes sortes d'événements absolument... qui aurait causé sa perte avant 2009-2008. Donc on a tout eu, je ne vais pas tout vous refaire.
Non, ouais.
On a eu la pandémie, l'équivalent d'une troisième guerre mondiale économique synchronisée partout. On a une hausse des taux, de l'hyperinflation. Et donc ce marché est très fort et il est soutenu par trois moteurs, grosso modo. Premier moteur, c'est le thème de l'intelligence artificielle qui a lancé Nvidia au zénith. Nvidia qui est à présent à 3700 milliards de capitalisation. Et donc ce moteur est très puissant depuis octobre 2023 et donc voilà, chaque année pourrait être un petit peu la même. Deuxième moteur, c'est la confiance qu'ont les investisseurs dans la politique des banquiers centraux, notamment de Powell. Donc voilà, les banquiers centraux, ils accompagnent une inflation qui est déclinante, qui diminue. Et le troisième moteur, on n'en parle pas souvent, ce sont toujours les poches de liquidité qui ont été insérées, injectées pendant la pandémie. Donc, il y avait 9 000 milliards d'injectés. Il y en a peut-être un tiers qui continue de se promener et donc qui sont partis se loger dans Nvidia notamment.
Quand on vous écoute, on a l'impression effectivement qu'il y a des forces dingues sur ces marchés.
Oui.
Et que, effectivement, ils ont tout vu. Aujourd'hui, qu'est-ce qui pourrait encore influencer les indices de nature à changer peut-être un peu la donne ou pas? Il y a quelque chose où on se dit finalement, ce marché, enfin, je veux dire, tout ce que vous venez de décrire, bah, il forge le marché pour encore des mois ou des années.
On a basculé un petit peu dans un autre monde en 2009, quand les banquiers centraux ont pris la main et qu'ils ont décidé d'injecter quoi qu'il en coûte. Draghi l'avait dit en 2012, je crois, quoi qu'il en coûte, whatever it takes. Donc il y a une espèce de put sur les marchés qui semble, a priori aujourd'hui, indéfini, éternel. Et donc les investisseurs ont une grande confiance dans ces marchés. Également parce qu'ils savent que voilà, les devises ne cesseront de baisser. Donc ils achètent de l'or, ils achètent des actions. On est dans ce qu'on appelle un boom inflationniste. On est dans une période de croissance forte et d'inflation forte. Je prends vraiment le long terme, hein, je recule beaucoup. Je parle au niveau de décennies, quoi.
Oui.
Et dans cet environnement-là, les investisseurs vont privilégier les actions. Les actions vont surperformer l'or. Et l'or va surperformer le dollar. Donc, ils vont automatiquement s'orienter vers les actions, les indices et l'or.
Alors, vous avez raison de regarder ces marchés sur très longue période. Et on devrait aussi un peu décoller le nez parfois du guidon et des indices pour prendre un petit peu de hauteur de vue sur les marchés. Malgré tout, si on rezoome un tout petit peu, on a vu que les mouvements de taux, ils avaient un peu drivé aussi tout ça sur 2023, sur 2024. Ça va se poursuivre sur 2025. On sait que du côté de la BCE, certains choix sont faits. Bon, du côté américain, peut-être qu'il y a un soupçon de questionnement du fait de l'élection de Trump et du programme de Trump qui pourrait ramener un petit peu de pression sur les prix. Mais enfin, voilà, vous vous dites aujourd'hui, c'est le mouvement de taux qui va continuer un petit peu à donner là.
Alors, il faut suivre les taux obligataires, notamment les taux en général, parce que voilà, les obligations, c'est le marché entre guillemets intelligent. Le marché action, il y a rien de plus bête, franchement. C'est faut pas croire que les traders font des choses intelligentes. Ils font des choses simples qui marchent, mais c'est pas un marché d'intellectuels. En fait, c'est vraiment un marché qui achète le creux, buy the dip, comme disent les Américains. Donc, pour répondre à votre question. Voilà, il va falloir suivre les taux. Il y a les taux à 10 ans obligataires qui sont en train de nous donner une indication en ce moment. Si jamais on casse, je crois que la valeur c'est 4,48 précisément, 4,48%, là, ça pourrait nous donner une indication de quelque chose qui pourrait être un petit peu plus inquiétante, notamment vis-à-vis de l'inflation. On a Trump qui est arrivé. Trump, c'est un phénomène. Il va faire du bien au monde, à l'économie, à la bourse éventuellement. Mais par contre, il est possible qu'il déclenche une petite inflation organique qui empêche l'inflation de baisser comme les marchés s'attendent.
Oui, parce qu'il a fait toute sa campagne en tapant sur les autres qui avaient fait de l'inflation. Mais quand on regarde son programme...
Alors,
guerre commerciale, reconduction à la frontière d'immigrés non déclarés, ceci, cela, plus... Enfin voilà, ça, il ne manque pas de raison de gonfler un peu les prix, quoi.
Alors en fait, on ne sait pas trop encore ce qui va se passer. C'est-à-dire qu'il y a le risque géopolitique qui devrait être éteint. Donc l'inflation dite géopolitique ne devrait plus exister. Cela dit, elle n'existe pas vraiment parce que les marchés l'ignorent totalement, ce risque géopolitique qui est maximal depuis... octobre 2023. Ensuite, il y a l'inflation liée à l'énergie aux États-Unis. Il va relancer la production de pétrole onshore notamment, mais même offshore. Donc on devrait avoir des prix à la pompe qui baisseraient, un prix du baril qui baisserait. Et la grande inconnue, c'est comment va se comporter l'économie vis-à-vis de l'inflation. Est-ce que ça va redonner un petit coup de fouet à l'inflation? Et dans ce cas-là, Powell pourrait être un petit peu les fesses entre deux chaises. Avec d'un côté Trump qui lui dit il faut baisser l'inflation, il faut baisser les taux, pardon directeur, et d'un autre côté oui mais je peux pas, l'inflation ne refuse de baisser, peut-être même qu'elle remonte. Donc ça va être, je pense, un des thèmes de 2025. Est-ce que voilà comment Powell va réagir? On sait que Trump va avoir un petit peu plus la main mise sur la Fed. Il veut même créer des lois qui lui permettraient d'éjecter le chairman si besoin. Donc voilà, ça, c'est un petit côté suspense pour 2025.
Alors justement, quels sont un peu vos scénarios? Parce que tout le monde bâtit un petit peu sa gamme. Vos scénarios pour 2025, c'est quoi?
Alors, on est dans une tendance haussière très, très forte. Là, je parle vraiment même en période haute. C'est un marché vraiment très fort. Donc, il ne faut surtout pas le négliger. Sinon, on reste sur la touche. Et ça peut être très, très frustrant d'être sur la touche. Il faut être vraiment très patient, attendre les bonnes corrections. Donc moi, j'ai deux scénarios. Premier scénario, on continue comme en 2024, on continue comme les années précédentes. C'est le scénario qui est à privilégier tant qu'on n'a pas des signaux, des indicateurs qui nous prouvent le contraire. Deuxième scénario, y a un indicateur qui est super intéressant, qui est super simple à comprendre. C'est que dès que la Fed ou la BCE, mais dès que la Fed débute sa baisse de taux à partir de niveaux de taux directeurs assez élevés, 5-6%, dès qu'elle la débute, en fait, cette baisse, eh bien, on a un pic dans les actions qui est soit imminent, soit déjà effectif. Et en général...
Donc là, il faut commencer à...
Il faut regarder cet indicateur. Et en moyenne, dans l'histoire, depuis la crise de 29, on a une durée de vie, en fait, de ce marché qui est de 1 an, 12 mois, et une performance moyenne de 11%. Donc ça, c'est intéressant à savoir. Peut-être que ce marché aussi, il a une durée de vie encore limitée. Autre indicateur intéressant, bon ça c'est un petit peu plus technique, c'est l'inversement de la courbe des taux, donc la différence entre les taux obligataires à 10 ans et à 2 ans, donc c'est un petit peu un différentiel entre le risque long terme et court moyen terme. Eh bien on a cette courbe qui s'est inversée, qui est en train de remonter, et en général quand elle dépasse le seuil des 0,35%, eh bien on a une récession et un marché baissier qui est accompagné de cette récession. Donc voilà des indicateurs intéressants et liés au taux.
Ouais. Vous nous avez dit tout à l'heure, parce que voilà pour les scénarios, mais vous nous avez parlé tout à l'heure, par exemple, d'NVIDIA. Aujourd'hui, on reste basé sur tout ce qui est IA, etc. Vous vous dites vraiment les grandes tendances sectorielles. Là, pour le coup, elles ne vont pas changer. On reste sur ce qui est devenu, j'ai envie de dire, nos grands classiques.
Exactement. Donc, on a les 7 magnifiques, par exemple, qui ont pris un poids démesuré dans la bourse, dans la S&P 500.
Oui, parce qu'on parle des performances indicielles, mais si on enlève les 7 magnifiques, comme vous dites,
c'est un marché qui est complètement concentré dans un petit nombre d'actions. Et donc, les 7 magnifiques, on les connaît, je vous le répète, hein, au cas où, c'est Nvidia, Apple, Microsoft, Amazon, Google, Tesla, Facebook. Donc, ces 7 magnifiques qui représentent environ un tiers de la capitalisation totale du S&P 500. Le top 2 représente environ 14%. Et donc, c'est des niveaux rarement vus dans l'histoire, souvent à des plus hauts historiques. Ouais. Et donc, ce marché est dépendant à présent d'NVIDIA. Ce qui s'est passé, c'est absolument extraordinaire. NVIDIA, elle était à, je ne sais plus combien, de 280 milliards de dollars. Je crois que c'était fin 2023, il faudrait vérifier. Et là, maintenant, on est à 3,7 trillions de dollars.
Pour une valeur qui, il y a 10 ans, passait pour un simple... fabricants de cartes graphiques pour les jeux vidéo. Quoi.
Et ce marché maintenant est dépendant d'NVIDIA. C'est-à-dire que si NVIDIA tombe pour des raisons fondamentales, eh bien, la bourse en général pourrait tomber également. Et on a cru que c'est ce qui se passait l'été dernier.
On reste donc sur ces valeurs-là ou est-ce qu'il y a d'autres, on va dire, actions ou thématiques d'investissement qui vous semblent porteuses et qu'on doit, sinon peut-être pas avoir tout de suite en portefeuille, mais au moins mettre dans son scope?
Alors ces actions, elles cannibalisent tout, c'est-à-dire ouais. qu'elles surperforment tout. Si vous jouez avec des ratios, par exemple, vous prenez le CAC 40 par rapport au S&P 500, vous avez une courbe baissière. Vous faites ça pour tout, pour tous les secteurs, c'est la même chose. Ces actions sont extraordinaires. Elles ont une marge nette moyenne de 30%, alors que le S&P 493, lui, est en dessous des 10% en marge nette. Donc, ce sont vraiment des entreprises, des actions extraordinaires qui effraient un peu, parce que maintenant, elles ont pris un poids démesuré.
Oui, c'est ça, ouais.
Et le marché en dépend. Et malheureusement, Cédric, non, je ne peux pas vous dire, par exemple, les minières d'or. Non, elles cannibalisent tout. Elles ont pris le dessus et elles risquent de continuer de surperformer jusqu'à ce qu'éventuellement elles basculent en mode bulle et que ça éclate.
Bon, il n'y a pas que le marché actions. Il y a d'autres actifs qui font beaucoup parler d'eux et plus singulièrement depuis notamment la réélection de Donald Trump. Il y a le Bitcoin et les cryptos, mais le Bitcoin plus singulièrement. Vous les regardez comment ? Vous les considérez ? Vous avez des perspectives, un travail particulier sur ces cryptos, sur le Bitcoin plus particulièrement ?
Alors, le marché du Bitcoin, techniquement, est devenu quasiment aussi technique que les indices. Donc, vous pouvez l'analyser très facilement, comme vous analysez les indices. Bitcoin, je le suis depuis très longtemps, depuis 2016. Ça fait un an et demi que je dis qu'il va aller à 100 000 $. Il est tout proche, là. Il a atteint 98 500. La cible qu'ont les institutionnels, elle est à 136 000 dollars.
Ah oui, 136 000, c'est ouais. très précis.
Quand je dis ça, c'est que les institutionnels utilisent des logiciels algorithmiques décentralisés, quasiment indépendants. Et bon, moi, je fais ça depuis 10 ans, je les suis. Et ils ciblent 136 000 dollars très précisément. Il y a une autre cible au-dessus à 180 000, mais on va y aller en douceur. On va d'abord essayer d'atteindre 136 000. Et le Bitcoin est un marché fascinant. On pourrait en parler des heures, mais voilà, la cible est à 136 000. C'est un marché qui a été relancé un petit peu par Trump. Le marché était dans l'attente de quelque chose, il était en correction, il consolidait. Et puis, il y a l'élection de Trump qui est arrivée. Donc voilà, c'est un marché, aussi bien pour les actions que pour la crypto, un marché de prétexte. On attend des événements à un niveau de support. Et dès que l'événement est là, dès qu'il y a l'élection, bam, on en profite et on monte. Et donc, la première étape, c'était BlackRock. Qui s'insérait dans Bitcoin,
ouais.
Wall Street qui changeait de ton. On se souvient qu'il y a plusieurs années, en 2018, il y a Warren Buffett qui disait que c'était de la mort aura, Bitcoin. Jamie Dimon de la JP Morgan disait que c'était une fraude, une arnaque. Trump, lui, a changé un petit peu de ton. Wall Street s'est inséré dans les ETF. Et donc voilà, on a eu des planètes alignées pour avoir une dernière phase haussière à la verticale. Et voilà, Bitcoin est quasiment à 100 000 et peut-être qu'il va consolider, faire une petite correction avant d'enclencher une dernière vague haussière pour s'orienter vers les 136 000 dollars.
Voilà donc pour ces cryptos et plus singulièrement pour le Bitcoin. Vous avez dit aussi, vous avez parlé rapidement de l'or tout à l'heure. C'est vrai qu'on a toujours dit l'or, c'est la valeur refuge, entre guillemets, par excellence, etc. Il faut s'y intéresser aujourd'hui. Vous avez une vision particulière sur cette relique barbare, comme disait l'autre.
C'est un actif extrêmement populaire parce que c'est l'actif refuge par excellence, mais c'est en plus un actif, contrairement à ce que beaucoup disent, il performe. C'est-à-dire que vous regardez...
Oui, on dit l'or n'a pas de rendement.
C'est faux, c'est totalement faux. Surtout depuis 2009. On a basculé dans un autre monde. Donc depuis 2020, je vous le disais tout à l'heure, on est entré dans un monde, un boom inflationniste dans lequel les actions surperforment l'or et l'or surperforme le dollar. Le dollar a baissé de 97% par rapport à l'or depuis que la Fed existe, depuis 1913. Donc quand on dit que l'or ne performe pas, c'est totalement faux. C'est les devises fiat qui chutent en fait.
Juste pour terminer, Antoine Andréani, quels sont les risques principaux que vous pensez que l'investisseur, qu'il soit professionnel mais particulier aussi, doit absolument avoir en tête pour l'année 2025 ?
Récession. Une récession est possible. Il y a beaucoup d'indicateurs qui nous orientent vers une récession. Ce serait naturel. Et une récession, ça équivaut à minimum 30% de correction. L'autre indicateur qu'il va falloir suivre, c'est évidemment l'inflation, on en a parlé tout à l'heure. Si l'inflation résiste et repart un peu à la hausse, pour X raisons, ça peut toujours être un risque géopolitique, même si le risque géopolitique, je pense, va être éteint par Trump. Faudra surveiller l'inflation parce que voilà, la Fed va être un petit peu piégée. Il y aura des puissances divergentes. Ouais. Est-ce que, voilà, on peut s'imaginer plein de scénarios, l'état profond, ce genre de choses. Est-ce que l'inflation va repartir à la hausse ou pas? Ça, c'est la grande question. Et les marchés, eux, voilà, je vous l'ai dit tout à l'heure, le deuxième moteur, ça a été la confiance dans les banquiers centraux, l'inflation qui était accompagnée par la Fed. Et si les taux directeurs, Jay Powell ne les baisse plus, il va y avoir de la tension sur les marchés financiers.
Merci beaucoup Antoine Andréani.
Merci
donc
à vous, Cédric.
XTB France dans Cœur de Patrimoine. À très bientôt.
À bientôt, au revoir.
Cœur de Patrimoine, Cédric Decoeur.